Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Faute de coalition, l'Espagne va organiser de nouvelles élections législatives. Les partis politiques ne trouvent aucun terrain d'entente. Vous l'entendrez dans un instant. Parole donnée aussi à Benjamin Netanyahou. Si les résultats des élections d'hier en Israël ne sont pas encore connus, le Premier ministre sortant promet déjà de trouver une coalition avec la droite et avec les religieux. Dans ce journal aussi, le patron de Total nous dira pourquoi il s'inquiète de la situation au Moyen-Orient en ce moment. Et puis un chercheur du CNRS nous donnera les pistes pour limiter le réchauffement climatique. Il pourrait finalement atteindre les 7 degrés d'ici 2100. Comme un air de déjà-vu en Espagne. 5 mois après les législatives, les partis politiques n'ont pas réussi à former un gouvernement de coalition. Le roi Philippe VI a donc annoncé de nouvelles élections prévues le 10 novembre prochain. Ce seront les 4e en 4 ans, Mathieu de Taillac.
Un à un, les dirigeants des principaux partis politiques ont expliqué pourquoi ils ne voteraient pas l'investiture du socialiste Pedro Sanchez. Pour Podemos, de gauche radicale, Pablo Iglesias a indiqué qu'il souhaitait un gouvernement de coalition refusé par les socialistes, alors que ce dernier acceptait encore d'en négocier les termes en juillet dernier. Chez les libéraux de Ciudadanos, Albert Rivera s'est scandalisé que Sanchez n'accepte pas 3 conditions soumises au dernier moment aux socialistes. Et au Parti populaire, le PP de droite, Pablo Casado a expliqué qu'il ne pouvait pas voter pour son principal adversaire. Quant à Pedro Sanchez, il a mis en cause tous les autres.
J'ai essayé de toutes les manières possibles, mais cela s'est avéré impossible. Malheureusement, 2 formations politiques conservatrices et 1 formation politique de gauche ont préféré bloquer la formation d'un gouvernement que réclamaient les urnes.
Voilà au moins une unité de discours parmi les grands partis. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. C'est le grand argument de chaque formation pour expliquer l'immense gâchis du temps et de la patience des Espagnols qui avaient voté massivement le 28 avril dernier. Les conseillers de Pedro Sanchez croient savoir qu'il pourrait améliorer son score dans 2 mois. Le ras-le-bol de la population pourrait au contraire se traduire par une abstention à gauche.
En Italie, c'est la gauche qui est au pouvoir via l'alliance entre les populistes des 5 étoiles et le Parti démocrate de centre-gauche. Une alliance qui avait vu le jour notamment grâce à Matteo Renzi. Mais alors que le gouvernement entre en fonction cette semaine, l'ancien président du Conseil crée sa propre formation et donc il quitte le Parti démocrate, Bruce de Galzin.
C'est au sein même du Parti démocrate que les réactions sont les plus vives. Cela désole le secrétaire du parti pour qui Matteo Renzi fait une erreur. Ce sont les divisions qui ont fait triompher Mussolini, affirme un autre leader démocrate. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, a lui été prévenu le premier par un appel de Matteo Renzi. S'il ne commente pas officiellement, cet appel l'a laissé perplexe, notamment le moment choisi, le jour même où le gouvernement au complet prenait ses fonctions. Un départ orchestré en effet, mais Matteo Renzi affirme dans la Repubblica qu'il soutiendra le gouvernement et que son nouveau parti ne se présentera pas aux élections avant 2023. Il peut compter sur 30 de parlementaires et pourrait ainsi créer un groupe autonome afin d'être davantage écouté dans la majorité. Cette scission, il l'a voulu car son parti est devenu un ensemble de courants, dit-il, et qu'il était lui un intrus. Matteo Renzi veut occuper le centre de l'échiquier politique. Il aura des vues sur les déçus de Forza Italia, ceux qui veulent quitter le parti de Silvio Berlusconi. Mais il le dit aussi, ce qui restera sur son CV et ce dont il est le plus fier, c'est d'avoir renvoyé Matteo Salvini, qu'il veut continuer à combattre.
Les résultats officiels du premier tour de la présidentielle en Tunisie sont connus. 2 candidats hors système vont s'affronter. Il s'agit du juriste austère Kaïs Saïd et du mania controversé des médias Nabil Karoui qui est en prison depuis plus de 3 semaines maintenant. Le second tour de cette présidentielle tunisienne est prévu au début du mois d'octobre. C'est en revanche encore flou en Israël au lendemain des législatives. Sachant que la majorité absolue est de 61 sièges, les dernières estimations n'arrive pas à départager le bloc de droite avec le Likoud de Benjamin Netanyahou et le bloc de centre-gauche avec le mouvement bleu-blanc de Benny Gantz. Le nationaliste laïque Lieberman, qui a pris ses distances avec Netanyahou, recueillerait lui 10 de sièges. Il serait donc faiseur de roi. Les résultats devraient tomber dans la journée. Et en attendant, le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, promettait déjà hier soir une coalition avec tous les partis de droite et les religieux.
J'ai parlé ce soir avec tous les partenaires du Likoud. Nous sommes tous d'accord pour avancer ensemble. Dans les jours qui viennent, nous allons négocier pour former un gouvernement fort, sioniste, et pour éviter l'installation d'un gouvernement dangereux et anti-sioniste. Je veux continuer à protéger le peuple d'Israël.
C'était Benjamin Netanyahou, traduit par notre correspondant Frédéric Mettezo, que nous retrouverons lors du journal de 7h tout à l'heure sur France Culture. Pour l'instant, il est 6h passées de 35 minutes. Le ministre des Affaires étrangères américain est attendu aujourd'hui en Arabie Saoudite. Mike Pompeo doit y rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman. Il s'agira, dit le département d'État américain, de coordonner les efforts pour contrer l'agression iranienne dans la région. Ce week-end, deux sites pétroliers en Arabie Saoudite ont été touchés par des raids aériens. Washington accuse l'Iran, mais cherche des preuves. Et ces attaques de drones ont provoqué, depuis le week-end, une hausse des prix du baril de pétrole, la production saoudienne ayant diminué de moitié. En France, le gouvernement a déjà demandé au groupe pétrolier de modérer une éventuelle hausse de prix à la pompe. Message reçu par Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Il était auditionné hier par les députés de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale et il en a tout de même profité pour faire part de ses craintes quant à la situation au Moyen-Orient.
Je suis, pour être honnête, profondément inquiet. Nous n'avons jamais vu dans l'histoire du Moyen-Orient une telle attaque entre des pays du Golfe. Jamais. Même au pire moment de l'Irak et de l'Iran, il y avait eu les installations attaquées, mais qui étaient beaucoup plus faibles. C'est un sujet important. Alors, pour vous rassurer, entre guillemets, sur le prix à l'essence, c'est vrai que je comprends la réaction. Hier, pétrole prenait 10%, aujourd'hui, il en perdait 4%. On va voir comment tout ça va s'équilibrer. En gros, 10% pourrait faire au maximum un impact de 5 centimes. En tout cas, j'ai bien entendu les appels du gouvernement. Je peux vous garantir que nous veillerons à ce que c'est pas dans cette période-là qu'on va chercher à gagner plus.
C'était Patrick Pouyanné, le PDG de Total, devant la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Près de 800 migrants ont été évacués hier du campement de Grande-Synthe dans le Nord. Les autorités parlent d'une opération de mise à l'abri. C'est insuffisant, répondent déjà les associations qui prévoient le retour rapide des migrants sur les lieux. À l'occasion de la journée de la qualité de l'air, plusieurs grandes associations environnementales, notamment WWF France, Greenpeace ou Réseau Action Climat, pointent ce matin du doigt la responsabilité de l'État en matière de qualité de l'air. Elle dénonce notamment sur franceinfo.fr la dieselisation du parc automobile et un air trop toxique dans le pays. Un air surtout de plus en plus chaud. Hier, les scientifiques français dévoilaient leur étude alarmiste. Les températures n'augmenteront pas de 4,8 degrés, mais de 7 degrés d'ici 2100. En tout cas, si rien n'est fait d'ici là pour limiter le réchauffement climatique. Avec des efforts, ce réchauffement pourrait se limiter à 2 degrés, mais ils doivent être colossaux. Voilà ce que dit Olivier Boucher. Il est chercheur à l'Institut Pierre-Simon Leplace.
Les scénarios les plus optimistes nécessitent de réduire les émissions le plus rapidement possible. Malheureusement, ça risque d'être pas être suffisant et il faut effectivement aller rechercher le CO2 qui est dans l'atmosphère. Et une manière de faire cela, c'est en plantant des arbres, de la biomasse. On récupère le CO2, on le stocke dans les sous-sols de manière à faire diminuer les concentrations atmosphériques. Donc on peut se poser la question de savoir si c'est réaliste, si c'est faisable. Disons que sur le papier, c'est possible, mais il y a des grosses interrogations sur la mise à l'échelle. Est-ce qu'on peut atteindre les de tonnes de CO2 qu'il faut retirer dans l'atmosphère dont on parle dans ces scénarios. Et donc là, il y a encore des incertitudes et des interrogations.
Ça veut dire quoi concrètement ? Planter combien d'arbres ? On parle de milliards d'arbres.
Ça veut dire consacrer des millions d'hectares à la culture, à des cultures qui sont là pour essentiellement aller retirer du CO2 de l'atmosphère. On peut aussi réfléchir à des moyens plus industriels d'aller rechercher du CO2 dans l'atmosphère. Donc là, c'est d'autres techniques pour lesquelles il existe des prototypes, mais là aussi, il y a vraiment une question de faisabilité, de mise à l'échelle en termes économiques, en termes de ressources aussi et d'énergie.
C'était Olivier Boucher de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Il répondait à Véronique Rebérotte. Et ce mercredi encore, il fera chaud et beau pour un 18 septembre. Seul le sud des Cévennes et des Pyrénées pourront éventuellement connaître un risque d'averse orageuse. Comptez ce matin 15 degrés à Besançon, 16 à Paris, Lille, Rennes, 20 degrés à Lyon, 22 à Bordeaux, 25 à Marseille et sur la Corse ce matin.